sans surprise cette semaine dans les conversations avec Daniel Abert. Blaise van der Linden et Daniel Abert évaluent la situation alors que la quatrième semaine de guerre commence. Donc on retrouve Daniel Abert au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Abert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, on va évidemment parler de la situation au Moyen-Orient et cette guerre menée par les États-Unis et Israël contre la République islamique d'Iran. Donald Trump, le président américain, a annoncé qu'il n'y aurait pas d'évolution de la situation, en tout cas pas avant le 6 avril. Les opérations militaires, elles, continuent. Alors, Daniel, je vous propose de prendre un peu de recul et de replacer cette guerre dans le contexte géopolitique mondial. Quel est le sentiment dominant par rapport à cette guerre?
Je crois qu'on en a déjà parlé, mais ce qui s'impose à moi, et je pense à beaucoup de ceux qui nous écoutent, c'est l'étonnement. L'étonnement de voir que la plupart des hommes politiques qui s'expriment, les journalistes, les experts, commentent cette guerre, regardent ça en spectateur, comme si ça ne les concernait pas. Et d'ailleurs, certains hommes politiques, vous citiez votre ministre des Affaires étrangères en Belgique, mais il n'est pas tout seul, hein, les autres disent la même chose, c'est pas notre guerre. Or, l'Iran, c'est une immense puissance localisée dans une région qui est absolument stratégique dans le monde, le Moyen-Orient, et qui en plus présente une menace qui va bien au-delà de la menace existentielle d'Israël ou même d'une menace à l'Occident. Elle menace le monde entier, surtout depuis qu'on a fermé le détroit d'Ormuz. Et malgré ça, malgré ça, il y a cet effet de spectateur. On regarde ça de loin.
Alors, comment est-ce que vous expliquez cela, Daniel?
Je crois que fondamentalement, personne n'a vraiment expliqué, non pas les objectifs de la guerre, ça on en a parlé, mais on n'a pas parlé de l'enjeu. Pourquoi cette guerre? Pas qu'est-ce qu'on cherche, mais pourquoi la faire? Quelles sont les raisons qui font qu'une victoire ou une défaite de cette guerre changerait la vie de chacun? Et évidemment l'ordre mondial. Donc c'est un morceau de ce puzzle de l'ordre mondial que Trump a entrepris de réorganiser depuis le début de cette année. Donc l'enjeu il est essentiel à l'ordre mondial. C'est un enjeu de l'ordre mondial. Alors c'est vrai qu'on a parlé des objectifs, mais oui, même les objectifs, moi j'entends beaucoup de commentateurs dire ils sont pas clairs. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Les Israéliens suivent un peu, mais les Américains, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Bien sûr qu'on sait ce qu'ils veulent. Ils veulent un changement de régime, parce que tant qu'on a un régime totalitaire, fanatique, qui veut prendre le monde entier, le transformer en un monde islamiste réglé par la charia, même les destructions militaires, qui sont un des objectifs de cette guerre, ne serviraient à rien parce qu'il y aurait tout de suite une reconstruction. Donc on est en face donc d'un régime totalitaire qui a l'ambition de dominer le monde et qui, depuis 50 ans, utilise une grande partie de ses ressources, qui sont très très importantes puisque c'est un grand pays pétrolier, pour construire un arsenal militaire dont on voit aujourd'hui combien il est important et presque illimité, et surtout qui pense que la fin justifie tous les moyens et qui pratiquent au fond la prise d'otages mondiale. Ils ont commencé dès 79 avec la prise d'otages de l'ambassade américaine. Ça s'était jamais vu. On a un peu oublié, mais c'est un viol tellement énorme du droit international que depuis ce jour-là, l'Iran s'est mis en dehors du droit international. Donc tout ce qu'on lui fait aujourd'hui, c'est une réponse à sa sortie du droit international et qui aujourd'hui reprend des otages. Il reprend en otage l'ensemble des pays du Golfe et il reprend en otage toute l'économie mondiale. Donc, cette volonté terrible de l'Iran, il faut l'annihiler par tous les moyens possibles. Et c'est ce qu'on fait. On bombarde les sites militaires et nucléaires, on élimine les dirigeants les plus populaires, les plus charismatiques. Et puis surtout, maintenant, on a un troisième objectif qui est de libérer le détroit d'Ormuz. Et je note en passant que, à propos de ce détroit, on reparle de droit international à tort et à travers. Le droit de libre passage par les détroits est confirmé par le droit international. Donc, c'est un viol manifeste et je suis même étonné que, ni pour la fermeture de la mer Rouge par les Houthis pendant la première guerre contre l'Iran, ni maintenant, le monde ne réagit pas. Donc, je reviens à ma première constatation, quel étonnement.
Alors, vous avez parlé d'objectifs, Daniel, mais quels sont les enjeux de cette situation?
Alors, précisons un peu quels sont les enjeux. Le XXe siècle a été marqué par l'apparition de deux totalitarismes qui ont mis le monde à feu et à sang, le nazisme et le fascisme japonais. Et il a fallu, pour venir à bout, mener une guerre de plus de 4 ans, des millions de morts, la destruction au fond totale des deux pays. L'Allemagne et le Japon ont été totalement rasés. On a même employé des bombes atomiques. Et je rappelle que la première bombe atomique n'a pas suffi à convaincre le Japon d'abandonner. Donc, vous voyez, quand on a affaire à des idéologies fanatiques, c'est terriblement difficile d'en venir à bout. Et donc, quand je reviens à la question que vous posez, l'enjeu actuel, le nouveau totalitarisme, il a un nom au XXIe siècle, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est le vrai totalitarisme de ce siècle, et il est difficile à cerner. C'est pour ça peut-être que l'enjeu ne nous apparaît pas assez clairement. Pourquoi? Parce qu'il est en grande partie caché. Une grande partie de l'islamisme, c'est un peu, je prendrai l'exemple d'un iceberg. On dit toujours que 90% de la masse de l'iceberg est sous l'eau, on la voit pas. Il y a la partie émergée. Et donc la partie cachée, c'est ce grand mouvement totalitariste qui s'appelle l'islamisme, qui a été lancé par le monde sunnite et par une organisation qui s'appelle les Frères musulmans et qui est en marche depuis presque un siècle, mais surtout qui s'est développé depuis le début du 21e siècle, depuis les années 2000. Quant à la partie émergée, elle est aussi plurielle. Il y a tous ces mouvements terroristes djihadistes qu'on a vu fleurir, Al-Qaïda, Daesh, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et tous ces dizaines et des dizaines de milices de toutes sortes, et dont beaucoup ont été suscités, ont été financés, armés et entraînés par l'Iran. La deuxième partie émergée qui est visible, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui non seulement est le moteur de la partie chiite de l'islamisme, mais qui a intégré l'islamisme sunnite. Ça, on ne le sait pas beaucoup, on ne le sait pas assez. Ali Khamenei, le guide suprême qui vient d'être éliminé, est celui qui a traduit en perse les écrits d'un Égyptien sunnite qui a été le grand théoricien, pas le fondateur. Le fondateur, c'est Hassan el-Banna. Mais le grand théoricien de l'islamisme s'appelait Sayed Qutb. Et c'est Ali Khamenei qui l'a traduit en persan. C'est-à-dire qu'on a dans sa personne, Ali Khamenei, fusionné les deux islamismes, la branche chiite et la branche sunnite. Et donc l'Iran, c'est le moteur principal, c'est l'incarnation principale de ce qui nous est caché, de l'islamisme. Donc c'est ça l'enjeu. Juste un mot pour dire qu'il y a un autre pays qui incarne aussi l'islamisme sunnite, c'est la Turquie, qui attend son heure et qui malheureusement, si l'Iran disparaît du paysage terroriste, pourrait être tenté de prendre sa place. Donc l'enjeu donc de la guerre contre l'Iran, c'est une guerre contre l'islamisme, c'est une guerre qui est contre un mouvement qui lui est mondial par nature et qui concerne tout le monde. Donc c'est curieux que le monde soit spectateur, mais je suis peut-être rassuré par le fait que la prise de conscience Elle a commencé. Partout où l'islam fait des percées politiques, dans nos pays par exemple, en Belgique, mais aussi en France, en Grande-Bretagne, la mairie de New York tout de même, c'est un islamiste hein, qui est au pouvoir, qui est devenu maire. Tout ça fait réagir et prendre conscience. Et puis le fait d'avoir pris en otage le détroit d'Ormuz et d'envisager de relancer la fermeture de l'autre détroit, Bab el-Mandel, celui qui bloque la mer Rouge, qui empêche les Égyptiens de faire travailler le canal de Suez, qui fait que le port d'Eilat aujourd'hui est un peu à l'arrêt. Tout ça est en train de concerner le monde entier parce que tout ce qui passe par ces voies fluviales, maritimes, pardon, concerne le monde entier, mais en particulier l'Asie. On a oublié que l'Asie, c'est devenu l'usine du monde. La Chine, le Japon, la Corée, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam sont devenus des pays où pratiquement 50, 60, quelquefois 90% de nos produits sont fabriqués. Tout ça, tout à coup, sont pris en otage par un pays qui est l'incarnation de l'islamisme.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka ce matin. On avait une dernière question de prévu, mais malheureusement, le temps nous est compté. On se retrouve la semaine prochaine.
On essaiera de continuer à approfondir tout cela.